les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier, Nathanaël Picasse.
Tout le monde connaît la trilogie cinématographique à succès des Y a-t-il un flic du trio Zucker-Abraham Zucker avec pour personnage principal Frank Drebin, joué par l'inénarrable Leslie Nielsen. Le premier film, The Naked Gun, From the Files of Police Squad, qui a été traduit en France par Y a-t-il un flic pour sauver la reine, fit un carton à la fin des années 80. Et pourtant, qui se souvient que cette trilogie est en fait issue d'une série qui ne rencontra pas son public au début des années 80, une série en fait croustillante et parodique qui s'appelait Police Squad. Pour nous en parler aujourd'hui, eh bien, c'est Alex. Et pour nous en parler autour de la table, il y a Sarah.
Bonjour.
Alors, Frank Drebin, vous le savez bien, est un fin limier de la police de Los Angeles. Enfin, presque. S'il fait partie de la police de Los Angeles, le lieutenant Drebin est plutôt spécialisé dans les gaffes, quiproquos, interrogatoires, surréalistes et catastrophes en chaîne. C'est à se demander comment il réussit à résoudre les enquêtes. Il faut dire que le monde qui l'entoure est tout aussi absurde que lui. Vous ne rêvez pas. Avant de devenir une trilogie de films à succès, les Y a-t-il un flic pour ont d'abord été une série. Bon d'accord, une courte série puisqu'elle ne comptait que 6 épisodes, mais une série tout de même. Le postulat de départ est le même que celui qui a fait le succès des films. Un flic on ne peut plus sérieux réalise des enquêtes on ne peut plus sérieusement dans un univers parallèle totalement absurde. On est bien ici dans une production Zucker, Zucker et Abraham. C'est en 1980 que les trois producteurs de l'absurde vont déposer le projet de Police Squad. C'est alors que ABC leur propose d'en faire une série car le format, selon eux, s'y prête particulièrement. C'est ainsi que débarque cet ovni sous les regards étonnés et médusés, et il est vrai, peu nombreux, des téléspectateurs d'ABC le 4 mars 1982. Tout comme les films, la série joue sur le comique de répétition et l'absurde. C'est ainsi que de nombreux gags se déroulent en arrière-plan, alors que l'enquête de Frank Drebin se poursuit inlassablement.
Ça, c'est un grand classique, hein, des films des Zaz, puisqu'on les appelait comme ça, les Zucker, Abraham Zucker. Je crois que tous leurs films, il y a toujours des gags en arrière-plan qui se passent, et c'est souvent ce qui fait le sel, d'ailleurs, de leur humour.
Il y a souvent plein de gags qui se passent à plusieurs endroits, donc il faut voir plusieurs fois la scène pour bien se rendre compte de tout.
Tout à fait.
Je vous propose de vous faire un petit relevé de quelques gags qui vont essaimer les différents épisodes. Chaque épisode se termine par un arrêt sur image sur lequel défile le générique. Sauf que ce sont les acteurs qui ne bougent pas. Bien sûr, cet arrêt sur image arrive toujours au plus mauvais moment et devient de plus en plus catastrophique au fil des épisodes. On verra notamment les deux personnages se verser du café, mais évidemment, ça finit par déborder de la tasse. Ou alors une salle de tribunal qui va commencer à prendre feu et s'écrouler complètement sur l'ensemble du casting. Ou encore un malfrat qui va tenter de s'échapper et donc bouger pendant que les flics, eux, restent complètement statiques. Mais évidemment, il sera coincé, il ne saura pas sortir de l'écran de la télévision. Il essaiera de sortir, mais c'est un peu comme un bocal. Chaque épisode comporte une scène où Frank Drebin percute inlassablement en voiture des poubelles ou des vélos ou d'autres choses, et le nombre d'objets renversés à ce moment-là correspond au numéro de l'épisode. Le rang de Drebin aussi dans la police, il n'est pas très clair tout au long de la série. Il est d'abord sergent Frank Drebin, puis détective lieutenant Police Squad au début de chaque épisode, puis il devient capitaine ou sergent selon les personnes qu'il rencontre. Lorsque Drebin rend visite à Ted Olson, qui est un scientifique de la brigade, une sorte de Q à la James Bond du pauvre, celui-ci est toujours en train de faire une expérience dangereuse avec un enfant. Qu'est-ce que l'enfant fait là? On n'en sait rien. L'enfant, il le renvoie toujours d'une manière plutôt salace, du style « Tu vois l'électricité statique que j'ai produite ? Ben, c'est la même chose que quand ta mère retire sa robe très moulante, ça fait dresser ses cheveux. La prochaine fois, n'oublie pas quand tu viens de me ramener les magazines préférés de ton papa qu'il cache sous son lit. »
D'accord.
Et il faut noter quand même que cette séquence qui est constante dans chaque épisode, même quand il n'a pas besoin de la brigade scientifique, il va quand même voir ce personnage. Cette séquence, c'est une parodie d'une série américaine de vulgarisation scientifique des années 50, type un petit peu ce qu'on voit actuellement avec C'est pas sorcier, qui est inconnue en France et qui s'intitule Watch Mr. Wizard. L'acte 2 de l'épisode possède souvent un sous-titre sans lien direct avec l'épisode. Par exemple, on a Acte 2, Richard 3, ou on a Acte 2, est tout brouté. À la fin de chaque épisode, le chef de Drebin rappelle inlassablement la liste de tous les criminels arrêtés lors de la série. C'est-à-dire que c'est comme le principe des poubelles, dans le premier épisode on a Frank Drebin a interpellé un tel, et puis dans le deuxième il y a deux noms, puis dans le troisième il y en a trois, donc c'est vraiment du comique de répétition.
Quelque part encore heureux qu'ils soient pas arrivés à 150 épisodes, parce que je crois qu'ils auraient rempli un épisode rien qu'avec ça.
Tout à fait.
Enfin, ça aurait pu être drôle, remarque, mais enfin peut-être drôle les deux premières minutes, après je crois qu'on s'en lasse quand même un peu de la blague.
Et puis dans chaque épisode il y a au moins un personnage qui s'appelle Sally. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais il y a d'office une Sally dans l'épisode.
Est-ce que comme dans les flics, y a-t-il un flic pour sauver la reine, et puis après il y a le président et Hollywood, il y a aussi des blagues souvent salaces avec des pin-up tournées sur le physique des femmes.
Un peu moins, mais on dira qu'il y a des trucs récurrents. Il va voir une femme très sexy, elle est en robe de soirée, alors que ça n'a aucun intérêt qu'elle soit en robe de soirée, elle est dans son appartement, elle est habillée en robe de soirée avec une fourrure, donc il y a aussi ce côté où on met certaines femmes très sexy, mais il y a aussi des personnages féminins totalement naturels, je veux dire, donc c'est un peu moins présent que dans les films, effectivement.
On se souviendra aussi que dans les films, il y avait la fameuse Priscilla Presley, qui devenait la femme de Drebin quand même, la femme de, et qui avait aussi des scènes assez particulières, qui étaient les scènes d'amour, à chaque fois c'était extrêmement imagé, ils mettaient des préservatifs géants en fait, donc ils étaient tous les deux enrobés dans un grand préservatif et ils faisaient l'amour comme ça l'un sur l'autre, c'était un peu particulier.
Bon, il faut se dire aussi qu'on est en 1982 et on est sur ABC, donc je crois que ce genre de choses ne serait pas vraiment passé au niveau du comité de censure, à tel point que dans le générique, il y a une scène où il y a des coups de feu qui sont tirés et comme dans ce genre de film, il y a des gens qui courent dans tous les sens et il y a un type qui court avec le feu à sa veste. Et la chaîne n'a pas été d'accord, ils ont pu diffuser ça pour les trois premiers épisodes, mais pour la suite, ils ont dû enlever le type en train de brûler parce que c'était choquant pour les gens.
Ah oui.
Si déjà ça choquait les gens, il faut pas demander
le reste, quoi.
Ouais, c'est pas une série où on va retrouver des scènes d'amour. C'est une série en 20 minutes, donc c'est format sitcom, c'est très très court. On se base vraiment sur l'enquête. On a aucun point de vue sur la vie privée de Frank Drebin. Bon, il est séduit d'une fois ou l'autre par une femme, mais ça va pas beaucoup plus loin et donc on reste effectivement dans le cadre de l'enquête policière. Les scénaristes résumaient la série très simplement en disant c'est un policier des années 50 sur lequel on a mis des gags derrière. Et le gag qu'on aurait aimé faire, si la série avait duré plus longtemps, c'est faire un épisode où il se passe réellement rien de drôle. C'est-à-dire que c'est un épisode vraiment d'une série policière des années 50, il n'y a rien qui bouge et on cherche partout le gag et en fait il n'y en a pas.
Je suis le sergent Frank Drebin, lieutenant détective à la Police Squad, une unité très spéciale de la police. Je revenais juste des abattoirs où on nous avait signalé que des centaines de vaches avaient été stupidement massacrées. Je n'avais pas trouvé le moindre indice et je me suis arrêté pour acheter un hamburger et appeler le poste. On venait de commettre un suicide. J'ai filé tout de suite sur les lieux. Mon patron était déjà là.
Ah, salut Franck.
De quoi s'agit-il ?
Un gardien a découvert le corps il y a environ une heure. Un type était entré là un peu avant, seulement le gardien est myope, du coup il n'a pas pu le décrire. Les gars des empreintes sont là.
Que s'est-il passé ?
Le gars s'appelle Mike Schultz. À première vue, ce serait un suicide, mais je ne suis pas convaincu. Pourquoi est-ce qu'un boxeur qui vient de signer la plus grande victoire de toute sa carrière voudrait se suicider ?
Vous croyez que c'est un meurtre ?
Oui, ça se pourrait.
Il y avait quelqu'un avec lui après le match ?
Juste son manager.
Qui est-ce ?
Un certain Gus nommé Cooper.
Qui est-ce, Gus Cooper ?
Non, Sol Cooper. Tous les boxeurs corrompus de la ville sont sous contrat avec lui.
Vous voulez que je l'interroge ?
Non, Franck, non. Ça ressemble bien à une affaire de meurtre et de corruption, alors. Tu vas t'arranger pour infiltrer le milieu.
Plusieurs gags composent le générique. On en a tout d'abord Abraham Lincoln et sa femme, qui échappent toujours au même attentat. Pourquoi ils sont là ? On n'en sait rien, puisqu'on les verra plus jamais après. Ensuite, le générique présente le guest star de l'épisode, qui se fait tuer instantanément. On peut y voir notamment William Shatner, Lorne Greene ou encore William Conrad qui viennent faire un petit coucou dans la série, mais qui sont instantanément tués, donc qui ne dépasseront pas le stade de l'épisode et ça n'a évidemment aucun rapport avec ce qui va se passer après.
Mais c'est évidemment plus pratique pour les cachets à payer.
Oui, tout à fait, parce qu'en plus ils parlent pas.
Sauf si toute heure commencée est payée.
En fait, ils sont tués dans le générique ou
ils
juste à l'issue
tués
du générique.
Dans le générique, donc d'accord. On dit with special guest star William Shatner, et on voit une scène avec William Shatner comme on présenterait dans Starsky Hutch par exemple, et en fait, il se fait tuer au moment du générique. Et ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe après. Il est là simplement pour faire
le générique.
Et dans le contrat, il est marqué qu'ils sont payés à partir de la première seconde de série.
Et puis, chaque épisode possède, et ça c'est assez particulier, puisque ça nous rappelle la grande époque des doublages un peu miteux en France, puisque chaque épisode de la série possède deux titres. Il y a d'abord le premier qui apparaît à l'écran, et puis le second qui est lu par la voix off et qui n'a rien à voir avec le titre qu'on voit apparaître à l'écran. On notera pour le plaisir celui de l'épisode 3 qui est « Le coupable et le majordome » qui donne dès la première minute la solution de l'enquête. Puisqu'effectivement, le coupable sera le majordome, chose dont on se rendra compte évidemment à la toute fin de l'épisode.
D'accord.
Par ailleurs, les producteurs réalisent un très bel hommage aux séries policières des années 60 et 70, dont la série s'inspire effectivement, je vous en ai parlé tout à l'heure, en engageant le même comédien voix off qui réalisait les génériques des productions Queen Martin, du type Les rues de San Francisco, je suppose que vous vous souvenez, Les rues de San Francisco, une production Queen Martin avec Michael Douglas. Et donc il a été recherché, ce gars qui était en pension depuis quelques années sur la côte floridienne et qui est revenu exprès pour enregistrer cette voix off.
Et qui a une voix extrêmement caractéristique aussi, hein, je veux dire, on ne peut pas le rater, même si nous on la connaît pas spécialement, mais ça fait très années 50 quoi, sa voix très particulière.
Je vous propose à présent de passer un peu en revue les différents acteurs qui composent le casting et évidemment la carrière de Leslie Nielsen, qui est au départ le fils d'un officier de la gendarmerie royale du Canada, puisqu'il est canadien. Il a étudié à l'Academy of Radio Arts de Toronto, puis à la Neighborhood Playhouse de New York. Il fait ses débuts à la télévision dès 1950 et multiplie les apparitions dans les premières grandes séries américaines. Ses premiers pas au cinéma ont lieu au milieu des années 50. Très rapidement, il décroche l'un des rôles principaux, celui du commandant Adams de Planète Interdite, devenu un classique de la science-fiction. Quelques films suivent, mais Leslie Nielsen retourne assez rapidement sur le petit écran. Dans les années 60 et 70, il connaît une activité ininterrompue à la télévision, en apparaissant dans de nombreux téléfilms et dans la plupart des séries américaines de l'époque. Je vais vous citer simplement Les Incorruptibles, Les Mystères de l'Ouest ou Bonanza, pour ne citer que justement les plus connus, mais il en a fait un paquet.
Et est-ce qu'il avait déjà ce rôle de Benet quand même qu'il traîne dans les Y a-t-il un flic ?
Non, pas du tout, parce que justement son visage devient familier du public, mais on ne lui propose pratiquement que des rôles sérieux de policiers, de médecins, d'officiers. Au cinéma, on retient de cette époque son apparition en commandant de l'Aventure du Poséidon en 1972. L'Aventure du Poséidon dont il y a eu un remake il y a quelques années, produit par Jerry Bruckheimer, si mes souvenirs sont bons.
Qui s'appelait Poséidon, je crois.
Poséidon tout court, oui. En 1980, la carrière de Leslie Nielsen prend une toute nouvelle direction avec Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Sous la direction de David Zucker, Jerry Zucker et Jim Abrams, les As donc, il montre enfin au public son aisance et son talent dans la comédie parodique dans le rôle du docteur Rumack. C'est dans ce film que les As vont le repérer, en faire le policier gaffeur Frank Drebin dans la série Police Squad. Et la trilogie à succès, Y a-t-il un flic pour sauver la reine en 1988, Y a-t-il un flic pour sauver le président en 1991 et Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood en 1994. Leslie Nielsen tourne également d'autres parodies plus ou moins réussies dans les années 90, en particulier Dracula, mort et heureux de l'être en 1995, qui lui permet de travailler avec et sous la direction de Mel Brooks. Il reste aussi très actif à la télévision, on peut le voir en guest star dans différentes séries assez classiques, on a même pu le voir dans Les Routes du Paradis, ce qui m'a quand même assez étonné. À l'aube des années 2000, l'échec de Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité, qui n'est d'ailleurs pas la suite des trois premiers Y a-t-il un flic, traduit un certain essoufflement du genre.
C'est rien de le dire, c'était vraiment une catastrophe ce film.
Ouais, et lorsque David Zucker reprend en main la franchise Scary Movie à partir du troisième volet, il offre à son acteur fétiche le rôle du président des États-Unis dans Scary Movie 3 en 2003 et Scary Movie 4 en 2006. Leslie Nielsen n'a rien perdu de sa drôlerie et reste indissociable de la parodie, même s'il est moins présent qu'auparavant. On le retrouve ensuite en oncle du héros dans Super Hero Movie en 2008, puis pour une apparition dans An American Carol, une parodie des films de Michael Moore, de nouveau signé David Zucker, sorti en octobre 2008 aux États-Unis. Donc on peut dire qu'il est resté fidèle à ceux qui l'ont amené finalement à ceux qui l'apprécient plus, la comédie un peu lourde, on va dire.
Il est vraiment bon là-dedans aussi, hein. Je veux dire, il a cette tête comme ça, assez particulière, on veut dire, un peu pâteau comme ça, et cette du gars qui ne comprend rien de ce qui lui arrive.
Et
quoi.
Cette manière de rester totalement sérieux et rester à fond dans le premier degré, alors que tout s'écroule autour de lui. Quoi.
Exactement. Non, il est vraiment bon dans ce registre-là, il faut bien lui laisser ça. C'est dommage qu'il se soit après enfermé dans ce registre, uniquement dans ce registre, mais bon, je suppose que les producteurs n'ont pas dû lui proposer énormément d'autres rôles à côté. Après, quand il le fait vraiment bien et c'est vraiment drôle.
Dans Police Squad, on peut citer également deux autres acteurs importants de la série. Il y en a d'autres, mais je veux dire, dire, ces deux-là sont vraiment capitaux. Il y a d'abord Alan North qui interprète le capitaine Ed Hocken, un personnage à la mine plutôt patibulaire, comme pouvaient l'être les capitaines de police dans les séries des années 60. Décédé en janvier 2000, Alan North était un acteur plutôt discret qu'on avait pu voir dans Highlander, mais aussi dans des séries aussi différentes que le Cosby Show ou New York District. Il est à noter qu'il aurait dû conserver son rôle dans les films, selon le souhait des scénaristes, mais les bailleurs de fonds lui ont préféré l'acteur George Kennedy. Autre personnage marquant et assez déroutant de le retrouver là, c'est celui de Norberg, un agent infiltré toujours premier degré. S'il doit prendre la place d'un serrurier par exemple, il le devient réellement aux dépens de l'enquête et s'implique à fond en créant des promotions sur deux clés plus une gratuite ou en s'occupant des livraisons du magasin comme si de rien n'était et il n'en a rien à caisser de l'enquête.
Norbert qui est repris par O.J. Simpson dans les films.
Tout à fait, mais ce qui est assez étonnant c'est que le personnage est d'abord dans la série campé par un certain Peter Lupus qui est une montagne de muscles devenue célèbre pour ses rôles dans des Peplum Kitsch, mais surtout pour son interprétation de Willy Armitage, l'homme fort de l'équipe de Monsieur Phelps dans Mission Impossible. Et c'est de là qu'on se dit « Ah oui, son visage me disait quelque chose ». Pour l'anecdote, il faut quand même savoir qu'il a aussi été le premier acteur à avoir posé entièrement nu pour le magazine Playgirl. Ça s'était jamais fait avant. Il s'est tombé sur lui dans les films et comme tu l'as dit, il sera remplacé par l'ex-star de football américain et futur star des tribunaux O.J. Simpson.
Voilà Sally Decker, Frank.
Mademoiselle Decker.
Bonjour.
Je suis le capitaine Frank Drebin. Vous avez dû passer un sale quart d'heure.
Oui, c'était plutôt moche.
Cigarette?
Oui, en effet.
D'accord. Puis-je vous interroger?
On peut essayer.
Où étiez-vous quand ça s'est passé?
À mon bureau, j'étais en train de travailler.
Quand avez-vous remarqué quelque chose d'anormal?
Quand j'ai entendu un coup de feu et que j'ai vu Jim tomber.
C'était le caissier, Frank.
Jim tombé, c'est le caissier?
Non, Jim Johnson.
Qui est Jim tombé?
C'est le comptable, Frank.
Il a la grippe, alors Jim le remplaçait.
Laurent qui?
Le remplacer, c'est le surveillant de la banque, Frank.
Si seulement Laurent avait été là.
Attendez que je résume. Vous avez vu deux fois entrer, tirer sur le caissier et Jim tomber.
Non, il n'a tué que le caissier et Jim Johnson tombé et malade.
Donc, après qu'il ait tué le caissier, vous, vous tuez deux fois?
Non, je n'ai tué qu'une fois.
Il veut dire deux fois le braqueur.
Alors oui, j'ai tué deux fois.
Donc, vous changez de version?
Non, j'ai tué deux fois, une fois Jim tombé.
Vous avez tué deux fois et Jim tombé?
Non, une fois Jim tombé, j'ai tué d'un coup deux fois.
Vous avez tué deux fois?
Non, juste une.
C'est le patron de la société de pneus, Frank.
Tout c'est clair. Juste une, le patron de la dite société de pneus dégomme deux fois. Ensuite, deux fois, tue le caissier.
Oui, deux fois.
Et une fois Jim tombé, vous, vous tuez deux fois.
Juste une.
Je vois. D'accord, ce sera tout, mademoiselle Decker.
Il faudra que vous passiez au commissariat faire votre déposition.
Oh, bien entendu.
Grâce à vous, on tient notre fil conducteur.
Phil n'a rien à voir là-dedans. Il est absent pour congé.
D'accord. Merci encore, mademoiselle Decker. Qui est congé?
Pas de congé, c'est le directeur, Frank.
Ouais.
On parlait des films « Y a-t-il un flic ? Y a-t-il un pilote ?» Tout ça sont des films qui ont été créés et scénarisés par les Az, les Zucker, Zucker et Abrahams. On va plutôt s'intéresser au plus créatif des trois, c'est-à-dire David Zucker, qui est né en octobre 47 à Milwaukee aux États-Unis. Milwaukee, c'est quand même la ville où se déroule Happy Days. Est-ce que c'est un signe? Je n'en sais rien. En tout cas, David Zucker y crée sa troupe de théâtre alors qu'il est encore un jeune adolescent comme les autres, toujours soutenu dans sa passion par son frère Jerry Zucker et par leur ami Jim Abrahams. Ils forment à eux trois la bande des Az. Très vite, le trio crée un spectacle original et atypique mêlant vidéo et sketch en direct. C'est naturellement ensemble que les trois compères débutent au cinéma dans le film de John Landis, Hamburger Film Sandwich. Fort de cette expérience, David Zucker, toujours aussi bien entouré, passe à la réalisation. En 1980, c'est le succès de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Cette immense réussite permet aux Az de réaliser deux nouveaux films parodiques, Top Secret en 1984 avec Val Kilmer et Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme en 1986, ça c'était avec Danny DeVito.
C'est une vraie signature, hein, leur humour, en tout cas leur style de film, je veux dire, c'est reconnaissable entre mille.
Tout à fait. Alors après, y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme en 86? Les membres de la troupe décident de continuer leur métier de réalisateur, chacun de leur côté cette fois, alors que le frère essaye d'autres registres avec le cultissime film Ghost. Eh oui, c'est assez étonnant, mais c'est lui qui est scénariste de ce film. David Zucker confirme de son côté son intérêt pour le mode parodique. Tout en produisant ses films, il réalise en 88 Y a-t-il un flic pour sauver la reine, en 94 je l'ai dit, Un flic pour sauver Hollywood, et en 91 Y a-t-il un flic pour sauver le président, ou encore en 98 Basketball. Par la suite, David Zucker se consacrera plus à la production, n'hésitant pas à s'investir dans d'autres projets avec d'autres réalisateurs. C'est le cas notamment en 2002 avec Phone Game.
Et mais que penses-tu de la série alors ?
Je dirais que c'est un bien que cette série n'ait pas duré, que les audiences n'aient pas suivi, parce qu'une telle série n'aurait pas pu durer beaucoup plus longtemps. Les scénaristes, les As, l'avouent eux-mêmes dans les commentaires du DVD sorti récemment. Il y avait tellement de gags par épisode qu'il était quasi impossible de pouvoir suivre scénaristiquement avec ce rythme. Par ailleurs, on imagine la pile énorme de poubelles qu'aurait dû renverser Franck en voiture à l'épisode 20.
Bon, en même temps, c'est l'excuse facile de dire qu'on n'aurait pas pu faire autant de gags. Enfin, moi, je repense à la série, par exemple, Arrested Development. Ils avaient un rythme soutenu au début, ils l'avaient toujours à la fin. C'était peut-être un petit peu moins drôle, mais enfin, il y en avait toujours.
Oui, mais je crois, en ayant vu les deux séries, que effectivement, au niveau des gags, Arrested Development n'avait pas ce côté très répétitif qui serait devenu très ennuyeux, parce que tellement répétitif que ça aurait été tellement la même chose. Voir la voiture de Franck taper 20 fois dans la poubelle. En plus, la série est toujours découpée de la même façon, c'est-à-dire, il se passe quelque chose, on appelle Franck dans sa voiture, oh ben mince, alors il y avait justement eu un incendie dans une boîte de striptease et les filles étaient sorties toutes nues, mais moi on m'avait appelé sur un assassinat, puis il part voir ce qui se passe, il discute avec les victimes, il va voir le scientifique, puis il va voir son indique qui est toujours le même, un type qui nettoie les chaussures en rue. C'est assez comique d'ailleurs parce que c'est un gars, il sait jamais rien, puis on lui donne un billet de $20 et il connaît tout sur tout, mais vraiment tout, il a même des indices cachés dans sa boîte à cirage. Donc c'est vrai que à terme, ça aurait été vraiment très, très, très répétitif. Il faut dire que ABC a très mal programmé la série, même si elle a énormément cru en cette série. ABC y avait mis les moyens, mais elle était en frontale face à deux autres énormes succès dont j'ai totalement oublié les noms. Mais c'était quasiment une case morte pour ABC à l'époque, et mettre la série là, c'était ou soit aller vers un énorme succès, ou aller vers une déculottée complète. Et c'est réellement ce qui s'est passé, c'est la déculottée.
Je me disais que peut-être que 20 sacs poubelles égale un camion poubelle. Et qu'à un moment, ils pouvaient renverser,
le camion poubelle. Tu devrais travailler chez les As, toi, non ? Leur envoyer des idées de scénario.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.